Le 17 novembre prochain, la République tchèque fêtera le 22e anniversaire de la chute du régime communiste. Au micro de Paul Bauer, Michel Perotino, politologue et spécialiste du Parti communiste de Bohême et de Moravie, est revenu sur l'histoire du Parti communiste tchèque. C'est aujourd'hui la deuxième partie de cet entretien.
Chapitre de l'histoire.
En 1948, Gottwald prend le pouvoir. Le parti communiste tchécoslovaque est bolchevisé, on peut dire ainsi. Quelle est la différence entre ce parti et ceux qui se sont constitués dans les, ce qu'on appelle les pays frères en Europe centrale?
Alors, le parti est bolchevisé, oui et non, dans la mesure où il y a déjà une mutation, notamment générationnelle, très importante. Une partie des communistes n'a pas survécu, par exemple, à la guerre. Ils bénéficient d'une légitimité qui n'est pas forcément utile ou utilisable par la nouvelle direction. Donc, c'est déjà un parti qui a beaucoup évolué depuis l'entre-deux-guerres. Par contre, évidemment, la très grande différence par rapport au parti frère, entre guillemets, d'Europe centrale, c'est tout simplement que le parti communiste de Tchécoslovaquie bénéficie de cette histoire déjà relativement longue, et au contraire, par exemple, des partis en Pologne, en Hongrie, par exemple, ou en Allemagne, le parti communiste est présent. Il n'a pas besoin d'être importé ou réimporté avec les chars libérateurs.
Est-ce qu'il sert de modèle, en quelque sorte, pour les autres partis qui prennent le pouvoir dans les autres pays en Europe centrale?
Je pense que chaque parti va essayer de construire sa propre identité, évidemment en conformité avec la centrale moscovite, mais sans forcément s'inspirer directement, en tout cas, de l'exemple tchécoslovaque.
Donc il y a une voie tchécoslovaque du communisme, comme il y a une voie polonaise vers le communisme. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un communisme national, d'une certaine manière, malgré la mise en avant du principe de l'international?
L'internationalisme, c'est un principe qui ne peut pas être mis en question. Une voie nationale, je dirais pas une, mais des voies nationales, ou en tout cas des voies tchécoslovaques vers le socialisme.
Des voies au pluriel.
Oui, parce que le terme de voie tchécoslovaque vers le socialisme, c'est un terme qui apparaît déjà dans les années 20, notamment porté par Schmelal à l'époque, qui est réutilisé après la guerre, et qui va avoir plusieurs contenus qui ne sont pas complètement identiques. C'est aussi un parti qui va s'inscrire dans l'internationalisme en luttant, par exemple, contre ce qu'il appelle le nationalisme. Et un de ceux qui va être purgé et qui va passer en prison 9 ans pour nationalisme bourgeois, c'est Gustave Husák.
En 1989, le régime s'effondre. Quelle est la différence entre le parti de 1948 et celui qui disparaît lors de la révolution de velours?
Alors, des différences, il y en a évidemment beaucoup. La première différence, la différence vraiment la plus importante, c'est évidemment ce qui s'est produit en 1968. On va revenir là-dessus tout de suite. Première remarque, donc, comme tout parti au pouvoir, il y a une mutation continue du parti qui est en train de, encore une fois dans un contexte semi-pluraliste, on oublie souvent de dire que le parti communiste était certes le parti dominant, mais il y avait d'autres partis qui venaient légitimer cette situation dominante. Donc le parti est en train de fonder sa république, république d'ailleurs qui se transforme, pas que symboliquement. En 1960, la Tchécoslovaquie, qui à l'époque est encore démocratie populaire, devient république socialiste dans la perspective, disons, du mouvement communiste ou de l'édification du socialisme ou du communisme. C'est un passage qui est très important et qui ne sera pas, par exemple, atteint par d'autres pays d'Europe centrale.
À quel moment cette étape importante du développement du parti et de la société vers le socialisme et le communisme ensuite se fait en Tchécoslovaquie?
C'est le processus qui s'est produit dans les années 50. D'ailleurs, un processus qui est là aussi un petit peu compliqué, ambigu, parce que d'un côté vous avez un parti communiste qui se définit comme l'avant-garde du prolétariat, et cette avant-garde, en fait, elle comprend grosso modo un dixième de la population totale, y compris les enfants. Donc c'est une avant-garde assez pléthorique. Donc il y a cette mutation, cette évolution en quelque sorte naturelle. Le parti devient en fait le gérant en quelque sorte de la Tchécoslovaquie, ce qui a évidemment des conséquences très importantes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer au parti pour des raisons moins de conviction que de carriérisme. Question qui va évidemment se reposer principalement dans les années 70. Mutation aussi qui se traduit finalement par une libéralisation assez nette dans les années 60, et mutation qui va se terminer par l'apparition du socialisme à visage humain, qui est en très grande partie en régie directe du Parti communiste.
Ce qui mène vers 1968 finalement. L'opposition de Moscou de cette voie tchécoslovaque vers le socialisme, c'est ça?
Oui, alors évidemment, la fin, c'est effectivement cette opposition et l'intervention, pas seulement de Moscou, la plupart des pays d'Europe centrale ont participé à l'intervention, à l'exception de la Roumanie. Donc pour stopper cette expérience, qui on le sait évidemment, est symbolisée par Dubček, expérience entre parenthèses qui va se retrouver très fortement dans la perestroïka, c'est-à-dire que certaines recettes qui ont en partie été menées en 68 vont être réutilisées dans les années 80 par Gorbatchev.
Donc d'une certaine manière, cette expérience tchécoslovaque a constitué un modèle d'évolution du socialisme.
Alors, modèle d'évolution, je ne sais pas si on peut parler de modèle d'évolution, mais il y a très certainement et très nettement en fait des pistes ou des passerelles entre ces deux grandes tendances ou grandes évolutions. L'autre chose évidemment qui va modifier beaucoup la donne pour le Parti communiste, c'est qu'après 1968, le parti va traverser une période de transformation très importante, transformations qui sont là aussi, pour schématiser, symbolisées par les purges. Qui vont avoir lieu au début des années 70, ce qu'on appelle la normalisation. La différence, par exemple, entre les purges des années 70 et les purges des années 50, c'est que ces purges ne se traduisent pas par des morts, mais par des évictions du Parti communiste. Donc les gens qui ne sont pas d'accord avec la normalisation sont poussés vers la porte de sortie du parti.
Alors en 1989, est-ce que le Parti communiste renie son passé? Comment il se positionne vis-à-vis de cette expérience de plusieurs décennies?
Alors c'est une expérience qui, certes, est longue, mais c'est une expérience qui, par votre conséquence, est aussi une expérience très complexe. Et par exemple, le Parti va non pas renier son histoire, au contraire, il va s'inscrire dans cette histoire, mais en mettant en exergue telle ou telle figure du communisme passé. Par exemple, Schmeral est revenu ou redevenu une figure phare du mouvement communiste tchécoslovaque ou tchèque. Donc de ce point de vue-là, il se situe dans la continuité par rapport à l'avant 89. Donc c'est un parti qui ne se renie pas. De l'autre côté, et là c'est une question évidemment qui est un petit peu délicate, est-ce que le parti a ou pas fait amende honorable ou essayer de produire, disons, une forme de retour sur certains éléments de son passé ou de son rapport à l'État. À ce moment-là, certains diront qu'il l'a effectivement fait dès 89, à plusieurs reprises, c'est-à-dire que le parti s'est excusé pour ce qui s'est produit avant 89, et d'autres diront que ce n'est pas suffisant. D'autre part, quand on dit qu'il s'agit d'un parti communiste, il faudrait s'interroger sur la notion de parti communiste. À l'origine, c'est un parti révolutionnaire. C'est un parti qui est créé pour faire la révolution. Le parti communiste de Bohème et Moravie à l'heure actuelle n'est pas un parti révolutionnaire.
À comment se définit-il alors ?
Il se définit comme un parti communiste, là aussi dans une dimension évidemment complexe, par référence au manifeste de Karl Marx, mais aussi par exemple par référence à la Commune de Paris. Le symbole le plus utilisé du parti communiste de Bohème et de Moravie à l'heure actuelle, ce sont deux cerises. C'est plus la serpe et le marteau. Deux cerises qui font référence à la Commune.